Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. RFI et Priorité Santé s'associe donc aujourd'hui au SIDAction. Le SIDAction, c'est à la fois une association, un événement dans le cadre de la lutte contre le SIDA. SIDAction, 25 ans depuis un quart de siècle. Le SIDAction informe, alerte, agit et mobilise, informe sur la maladie, les traitements, avec aujourd'hui 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. SIDAction alerte sur l'épidémie, avec encore près de 1 800 000 nouvelles infections chaque année. Alors si les traitements existent, si les patients se soignent, s'il y a des avancées, la baisse de vigilance s'avère dangereuse car le VIH-SIDA reste un risque de santé publique. SIDAction agit sur le terrain au travers de partenariats, financement de programmes de prévention au plus près des communautés, programmes de soins, mobilisation. SIDAction mobilise, appel aux dons pour réunir des moyens, des financements, faire passer le message à la radio, à la télévision, lancer des appels pour rester vigilants. N'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner par téléphone en composant le 110 quand on réside en France. Et si vous êtes à l'étranger, par internet, www.sidaction.org. 25 ans de SIDAction dont RFI est partenaire. On en parle aujourd'hui dans Priorité Santé avec nos invités. Professeur Willy Rosenbaum, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Rosenbaum, vous êtes praticien hospitalier à l'hôpital Saint-Louis à Paris, co-découvreur du VIH. Avec nous, Hélène Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des services des programmes internationaux de SIDAction, mobilisation, prévention, soutien financier à des partenaires comme à l'association Espoir Vie Togo, association de lutte contre le VIH-SIDA. Tout à l'heure, on va retrouver le docteur Nina Dapam, qui est membre de cette association, donc financée en partie par le SIDAction. Et puis, association aussi qui travaille en France, hein, où près de 6000 nouvelles infections sont encore recensées cette année. Nous suivrons le reportage de Raphaël Constant au sein de l'association parisienne Basiliade.
Priorité santé sur RFI.
Symbole du petit ruban rouge 25 ans après le premier rendez-vous qui avait mobilisé une grande partie du paysage audiovisuel en France, radio, télé, ensemble contre le sida. C'était le 7 avril 1994 à l'initiative il y a 25 ans et elle est toujours là. C'était notamment Lynn Renaud. Elle va donner ce soir le coup d'envoi de ces 25 ans du SIDAction. Professeur Willy Rosenbaum, on peut vous présenter, hein, sans aller trop loin, comme un médecin historique, emblématique du VIH-SIDA. Si on devait commencer par ce qui a changé entre 94 et aujourd'hui, 25 ans de lutte, 25 ans pour vous, 25 ans de soins, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette période ?
Au regard de l'histoire de l'humanité, on peut dire que la recherche a permis des progrès fantastiques, puisque aujourd'hui on a les moyens de maintenir la santé des personnes contaminées par le VIH à un niveau équivalent de celui de la population générale. Concrètement, l'espérance de vie des personnes contaminées, lorsqu'elles sont diagnostiquées suffisamment tôt et qu'elles sont traitées, est équivalente à la population générale et peut-être même meilleure. Pourquoi meilleure ? Parce que, comme ils sont suivis de près médicalement, dès qu'il y a un problème, on intervient et donc on améliore même la santé des personnes contaminées par le VIH aujourd'hui qui sont en soins. Donc ça, c'est un progrès extraordinaire. Et puis, on a des outils médicaux, mais pas que. On a des stratégies à proposer aux gens pour éviter d'être contaminés. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Et on a la possibilité d'agir sur les nouvelles contaminations de manière telle qu'on peut espérer, si on les utilise correctement, éradiquer ou en tout cas diminuer considérablement le poids de cette épidémie dans le monde.
Et on le ressent, hein. Si on va regarder justement les images de ce SIDAction 94, c'est vraiment évident. Le ton était absolument, on va le dire, hein, j'ai pas honte, sinistre. C'était terrible de voir ces images. Tout le monde avait un visage totalement fermé. On a vraiment l'impression qu'à l'époque, quand on parlait de sida, on ne parlait que de mort. Aujourd'hui, Willy Rosenbaum, on vit avec le sida.
On vit normalement, je dirais, la principale souffrance des personnes qui sont atteintes du VIH et qui sont en soins, hein, j'insiste, il faut qu'ils soient en soins, diagnostiqués et en soins, c'est le regard des autres qui reste encore négatif, discriminant, et ça, c'est même un obstacle à une lutte optimale vis-à-vis de la maladie.
Alors c'est la stigmatisation, c'est la discrimination, forme d'exclusion, même des craintes qui ne sont pas forcément dites, avec encore pas mal d'idées reçues hein, qui circulent. Deux décennies et demie de lutte et d'expérience. Hélène Roger, dans l'appel cette année qui est lancé par le SIDAction, il y a un terme qui revient. Ce terme, c'est celui de banalisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de banalisation ?
Le terme veut dire que finalement les gens se sentent plus tellement concernés et on est finalement dans un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que effectivement le sida et le VIH sont encore très discriminants, font très peur, et en même temps personne se sent concerné. Les gens ne se protègent plus vraiment ou pas vraiment, les informations ne sont pas très bien partagées. On voit, on fait tous les ans nous un sondage auprès des jeunes qui montre que il y a au moins un quart des jeunes qui ne se sentent pas bien informés sur la question du VIH, qui ont des fausses croyances, qui pensent par exemple qu'on peut être contaminé en embrassant une personne séropositive ou en buvant dans un verre d'eau.
Excusez-moi, mais c'est encore ce qu'on retrouve dans les questions que nous posent les auditeurs aujourd'hui sur Facebook. On a un certain nombre de personnes qui ont réagi, qui ont posé des questions, et on retrouve les fameuse question, le baiser sur la bouche, voire même contamination par les moustiques, dont encore beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas forcément plus idiotes les unes que les autres. En tout cas, il faut corriger, il faut informer.
C'est bien ça. C'est-à-dire que il manque encore aujourd'hui vraiment de cette information qui permet aux personnes d'avoir les éléments déjà de connaissance et puis derrière de se protéger comme il le faut.
Alors justement sur la jeune génération, on a vu récemment des enquêtes sanitaires qui ont montré une progression dans cette jeune génération des IST, pas forcément en termes de VIH mais de certaines maladies sexuellement transmissibles. On peut voir là justement cette baisse de vigilance qui a un impact direct en termes de santé publique.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, notamment, le port du préservatif, on voit qu'il n'est pas du tout systématique. On voit qu'il est souvent... Le taux de personnes qui utilisent des préservatifs pour le premier rapport est très bon. Mais après, en fait, ça décline au fur et à mesure. Et finalement, voilà, c'est effectivement une question de santé sexuelle et de d'IST qui n'est pas que la question du VIH.
Alors, on va reprendre par le démarrage en fait chronologique dans la maladie, avec un élément toujours aussi essentiel, c'est bien évidemment, professeur Rosenbaum, le dépistage.
Absolument, c'est une donnée extraordinairement importante, puisque quand on se fait dépister, on se fait traiter, puisqu'on traite toutes les personnes contaminées par le VIH. Quand on se fait traiter, on ne transmet plus la maladie, donc il y a un intérêt collectif, et ni à ses partenaires sexuels, ni à ses enfants quand on est une femme, et qu'on a une espérance de vie et une santé qui se maintient normalement comme pour tout le monde. Donc c'est un élément extrêmement important. Il faut se faire dépister au moins une fois dans sa vie, et quand on s'expose de manière plus régulière, enfin plus importante, on peut se faire dépister une fois par an ou même plus quand le risque perçu est plus important. Alors, cette perception du risque est très mal, je dirais, répandue. Les gens pensent aux moustiques, mais ils pensent pas à la relation même occasionnelle qu'ils ont pu avoir avec une rencontre occasionnelle. Donc, c'est assez paradoxal.
Le dépistage, c'est une nécessité. Malgré tout, il y a encore des réserves. Elles sont de quel ordre, professeur Rosenbaum ? Ceux qui n'osent pas, ceux qui retardent ce dépistage, ce sont quoi les facteurs ?
Mais l'ignorance, c'est-à-dire on ne perçoit pas les bénéfices. Là aussi, il y a un problème de perception.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, une fois que je vais avoir mon diagnostic, ça va être un très mauvais pronostic. Ils n'ont pas conscience que derrière, il va y avoir tous ces soins, ces médicaments qui vont pouvoir justement permettre permettre d'avoir une véritable espérance de vie?
Oui, enfin, je ne sais pas ce que les gens craignent, parce qu'aujourd'hui, les traitements sont simples. Ça peut se réduire à un comprimé par jour. Peut-être bientôt, d'ailleurs, une injection par mois ou tous les deux mois. Donc, le traitement est simple. Il est parfaitement bien toléré. Les gens vivent avec des notions d'il y a 10 ans, 15 ans, voire 30 ans. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement simples. Le traitement est extrêmement bien toléré. Et donc, il n'y a aucune raison de reculer. Il n'y a que des bénéfices à se faire dépister.
Hélène Roger, on voit malgré tout dans certains groupes de population, dans d'autres pays notamment, une réticence à aller se faire dépister. On plaide dans certaines associations pour justement la démédicalisation, ça veut dire faire des tests en dehors des structures de santé. C'est aussi une piste pour étendre ces dépistages.
Tout à fait, c'est une piste vraiment fondamentale, puisque aujourd'hui, on a 25% des personnes qui sont séropositives et qui ne connaissent pas leur statut, et il est indispensable justement d'ouvrir ce dépistage un maximum. Et en fait, dans les structures communautaires, il y a des conseillers communautaires qui sont présents, qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent les problématiques, qui connaissent parfaitement le VIH et qui vont dans les communautés et qui ont cette capacité justement à aller proposer du dépistage, à faire tout le travail fondamental qu'on appelle le pré-test, c'est-à-dire de conseiller, d'orienter, d'expliquer aux personnes qu'est-ce que c'est qu'un test de dépistage, qu'est-ce que ça veut dire derrière, et notamment d'expliquer justement l'importance de se faire dépister pour pouvoir être rapidement pris en charge et avoir accès à un traitement. Et donc, ils sont tout à fait à même de faire ce travail de dépistage et ensuite de référer les gens, parce que c'est bien de dépister les gens, mais il faut surtout s'assurer derrière qu'ils soient pris en charge et qu'ils soient intégrés dans des systèmes de soins, et donc ils peuvent aussi faire ce lien avec des structures de soins qui après vont prendre en charge la personne.
Professeur Willy Rosenbaum, vous disiez donc importance du dépistage et ensuite des nouveautés en matière de prise en charge, notamment tant au terme d'ailleurs, en termes de prévention avec la prophylaxie pré-exposition, bien sûr toujours l'outil indispensable qu'est le préservatif, et ensuite des médicaments de dernière génération qui ont un impact très important sur quelque chose dont on va parler. Ça peut paraître compliqué, mais c'est essentiel, c'est la charge virale.
Oui, il faut savoir qu'un traitement bien pris, 95% des personnes qui prennent un traitement lorsqu'il est pris ont un virus qui est devenu totalement inactif. On parle d'indétectabilité, c'est pas toujours très perçu par les gens, mais le virus, il faut voir que le traitement agit comme un couvercle qu'on met sur une casserole où il y a de l'eau qui bout, la vapeur ne sort plus. Et donc, on empêche le virus d'être actif. Et donc, on évite la transmission, on évite les effets nocifs de ce virus qui se multiplie en l'absence de traitement. Donc, oui, ce traitement permet le contrôle de la maladie par l'intermédiaire du blocage ou de l'inactivité du virus.
Avec une double incidence, aussi bien pour la santé de l'organisme qu'en termes de contamination.
Oui, on ne contamine plus à partir du moment où le virus n'est plus actif. Et ça, il faut maintenir effectivement le traitement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un traitement qui est prévu pour la vie, mais c'est pas la seule maladie où on a besoin d'un traitement permanent.
Énormément de maladies chroniques sont aussi concernées. On pense au diabète, on pense aussi à énormément de maladies métaboliques.
L'hypertension, les rhumatismes, enfin...
Les gens prennent des cachets toute leur vie. Mmh. Alors, on regarde 25 ans en arrière, on regarde les avancées en termes, on l'a compris, thérapeutiques. Il y a aussi quelque chose, c'est sur les prises de conscience et le travail en commun. Il y a quelque chose d'indéniable quand on s'intéresse à l'histoire du sida, c'est l'interaction, la proximité... patients, soignants, on peut dire que ça a vraiment redéfini la donne. On a vu les patients, peut-être un petit peu de manière hyperactive au début, venir dans le processus, dans les protocoles, pour non seulement réclamer des droits, mais aussi réclamer des soins. Est-ce que vous avez justement été l'un des acteurs, l'un des témoins, professeur Rosenbaum, justement de cette avancée, on va dire, main dans la main?
Oui, c'est vrai que ça a changé le rapport... entre malades et médecins, médecins-malades. Il y a une empathie particulière vis-à-vis d'une population qui était jeune, dans laquelle beaucoup de soignants se sont reconnus, entre guillemets. Ce n'est pas universel. Il y a encore beaucoup de préjugés. Moi, je suis étonné de voir encore des soignants, que ce soit dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement, qui expriment un certain rejet des patients. Moi, de certains patients qui n'ont pas obligatoirement les mêmes, je dirais, intérêts ou pratiques. Il n'en est que voir, par exemple, en Afrique, le tabou qu'a représenté, représente encore, l'homosexualité.
Représente encore, absolument.
Encore une fois, tout ça, c'est des obstacles. Tous ces préjugés sont des obstacles à la bonne prise en charge. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui risque de se faire rejeter par l'environnement social et parfois aussi par l'environnement des soignants, va éviter les soins. S'il évite les soins, il ne va pas bénéficier du traitement pour lui-même et du traitement pour les autres. Encore une fois, le traitement des personnes contaminées a une répercussion sur l'ensemble de la communauté puisque ça interrompt les chaînes de transmission.
On employait tout à l'heure le terme de stratégie, justement, ça entre directement en connexion avec ce qui vient d'être dit. Par rapport à certaines populations qui sont, on va dire, plus difficiles d'accès, on parlait au sud, par exemple, des communautés homosexuelles. Il va y avoir aussi les usagers de drogue dans certaines régions du monde. On pense particulièrement en Europe orientale, avec un développement très important de l'épidémie des usagers de drogue par voie intraveineuse en Europe orientale. Hélène Roger, tout ça, ça oblige les associations à travailler ce qu'on appelle vers des populations cibles.
Tout à fait. Et je dirais avec deux stratégies. La première, c'est vraiment une stratégie de aller vers, c'est-à-dire aller vers ces populations, déjà les identifier et pouvoir leur proposer un panel à la fois d'outils de prévention et de prise en charge qui soient adaptés à elles et à leur vie. Et puis d'un autre côté, tout ce qui est plaidoyer. On a aussi beaucoup de facteurs qui sont empêchants, qui sont liés notamment à des politiques qui sont des politiques répressives à l'endroit de ces personnes.
Avec des lois qui pénalisent, un certain nombre de pays où on va en prison parce qu'on est homosexuel, tout simplement, il faut le dire.
Voire la peine de mort pour les personnes homosexuelles. C'est le cas aussi pour les travailleurs ou travailleuses du sexe, qui peuvent aussi être mis en prison pour leurs pratiques. Les usagers de drogue, c'est la même chose. Donc on est vraiment dans aussi ce travail nécessaire, justement, de plaidoyer contre ces politiques répressives.
Alors on va vous retrouver tous les deux dans quelques instants, si vous le voulez bien, avec une illustration concrète sur l'utilité, le pourquoi du SIDAction, on va dire simplement où va l'argent. Mais avant de retrouver ce reportage, justement, l'appel aux dons, le 110 de France, si vous êtes à l'étranger par internet, www.sidaction.org, fonds collectés pendant ces 3 jours qui seront reversés donc au programme de recherche, au programme de soins, comme aux associations qui aident et prennent en charge les personnes qui vivent avec le VIH en France et bien sûr dans le monde.
Priorité santé sur RFI.
Et Raphaël Constant s'est rendu à la rencontre de membres de Basiliade. C'est une association financée notamment par le SIDAction, structure qui existe depuis plus de 2 décennies. Elle accompagne les personnes en situation de précarité, atteintes notamment du VIH-SIDA. Basiliade propose un accueil communautaire et Raphaël Constant s'est rendu il y a quelques jours dans les locaux de l'association. C'est à Paris, dans le 3e arrondissement. Sur place, une 20aine de personnes étaient réunies pour partager un déjeuner préparé par les membres.
Je vais mettre tout dans un peu d'huile et je mets du poivre.
Oui.
Ouais, et c'est tout. Voilà. Et ça, c'est la loco. Voilà. Voilà, loco, ça va se manger avec du poulet que Thérèse fait. Thérèse fait un peu à l'africain, on demandait qu'on fasse un peu un truc africain.
Comment vous appelez ?
Yannick.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, ce que vous êtes en train de faire ?
C'est la télé-cuisine. Parce qu'ici, les mardis et les jeudis, ils reçoivent des livraisons alimentaires à date presque de péremption. Et du coup, tout le monde a été d'accord de venir prendre des plats pour amener chez nous, des denrées alimentaires, des yaourts, des trucs qui peuvent nous aider. Et parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas de domicile fixe. À cette occasion, donc, ils ont instauré de faire à manger, de prendre un peu de tout ce qui vient, de faire un grand repas et qu'on mange tous dans dans une bonne ambiance, bon enfant, on rigole, on se raconte des trucs. Et du coup, tout le monde, chaque jeudi, les gens viennent pour raconter tout ce qui se passe dans nos vies actuelles et comment les autres supportent le traitement, comment ça se passe. Chacun raconte un peu son parcours, comment il a fait pour arriver là en Europe, comment il a fait pour connaître Basiliad. C'est un peu ça, on essaie de parler de tout et de rien.
Et vous, votre histoire, c'est quoi ?
Je suis arrivé à Basiliad à travers mon assistante sociale qui me suivait à l'hôpital Bichard où j'étais accueilli. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à franchir le pas pour aller vers des associations. Et du coup, depuis que je suis là, je ne me plains pas. Je suis bien, je me sens chez moi. C'est comme une nouvelle famille. C'est une nouvelle famille psychologiquement et ils sont présents.
Depuis le début des années 2000, le visage du VIH-SIDA a beaucoup changé. Aujourd'hui, il est intimement lié à la migration. Et malheureusement, pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, le VIH, il est lié à une énorme discrimination, sociale particulièrement. Et les personnes qu'on accompagne aujourd'hui à Basiliad sont pour près de 70% originaires d'Afrique subsaharienne. Je m'appelle Céline Maury, je suis la responsable de la structure Basiliad à Paris. Basiliad a deux missions, accueillir et accompagner des personnes concernées par une pathologie chronique, dont le VIH, et en situation de précarité sociale et de vulnérabilité administrative. Pour ce faire, l'accueil est majoritairement collectif, autour de repas, et l'accompagnement est individuel et réalisé par les professionnels, donc travailleurs sociaux, chargés d'insertion, juristes, infirmiers, médecins, psychologues, pour accompagner au mieux les personnes chaque jour dans leur vie quotidienne et leur permettre une meilleure autonomie. Les fonds de SIDAction pour Basiliad financent plusieurs projets. Le lieu dans lequel on est aujourd'hui, tous les repas qu'on distribue le soir, ça finance le fait que, au sein de ces moments de convivialité, des personnes peuvent faire une lessive, prendre une douche si besoin. Les fonds de SIDAction financent aussi un lieu de création artistique. Et enfin, SIDAction finance le programme d'insertion professionnelle pour accompagner les personnes dans la reconnaissance de travailleurs handicapés, la recherche de formation et l'accessibilité à un emploi.
Je viens à Basiliad, ça me fait un an plus ici. Quand je viens, je n'avais pas là où aller, je n'avais pas quoi manger. Vraiment, ce que Basilia représente pour nous aujourd'hui, ça, eux, ils dépassent même les parents. Parce que même quand on a des problèmes dehors, on court toujours ici. Ils nous donnent les tickets resto. Et quand on a un petit souci, même au niveau de la préfecture, ce sont toujours eux qui interviennent. Ils nous encadrent vraiment. Parce que je peux pleurer partout, mais dès que je rentre ici, je peux te rassurer, j'ai la paix du cœur. Il m'a envoyé même faire une formation de l'assistante de vie aux familles. Je travaille déjà grâce à Basiliad. Je suis en train de suivre le traitement. On est resté en famille, tu vois, tout ce monde-là. On a commencé, on n'était pas nombreux comme ça. Petit à petit, petit à petit, nous voici aujourd'hui. Donc, c'est ça.
Je suis Stéphanie, je suis infirmière coordinatrice au sein de Basiliad depuis un an et demi.
Et en quoi consiste votre travail, justement, d'infirmière au sein de cette association ?
C'est de permettre aux personnes d'accéder aux soins. Et puis, c'est tout le travail de compréhension, des thérapeutiques, des règles d'hygiène qui ne sont pas les mêmes, en fait, où ils n'ont pas eu accès dans leur pays, forcément, à la prévention. Et puis, c'est aussi, dans le soin, valoriser leur savoir-faire, leur savoir-être, qui, parfois, dans le parcours, sont effacés parce qu'ils ont eu un parcours de vie compliqué. Ça fait partie aussi de la santé, qui est plutôt du coup mentale. J'ai aussi des personnes qui sont diagnostiquées, mais qui ont beaucoup de mal avec l'acceptation de la maladie, qui se sentent stigmatisées. Et donc, c'est travailler sur le secret, sur comment l'annoncer aussi à son employeur. C'est comment en parler à ses proches. Et puis, c'est comment aussi adapter les thérapeutiques et les conseils des médecins par rapport à leur vie, par exemple les traitements. Pour certaines personnes, ils cachent énormément leurs médicaments au cas où ils aient des visites à la maison. Et parfois, c'est pas toujours très adapté. Du coup, il y a des oublis parce que c'est caché dans un sac, et caché dans un autre sac, et caché dans une valise. Donc, on peut travailler ça avec eux pour que ce soit discret.
Tout le monde à table. Ok, bon appétit. Merci.
Illustration concrète donc de ce programme association financée par le SIDAction. Hélène Roger, combien sont-elles, hein, ces associations qui sont financées par le don et par justement sites d'action, associations qui financent les autres?
Alors, elles sont plus d'une centaine en France et à l'international. Juste, je voulais dire, parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce reportage, qui montre bien à quel point, finalement, il y a la question médicale, la question des traitements, mais finalement aussi le gros du travail qu'il y a à faire,
c'est
le
social.
Maintien. C'est social, c'est-à-dire c'est le maintien dans les soins, mais c'est aussi tout l'accompagnement des personnes, justement pour faire en sorte qu'elles restent dans un système de soins, qu'elles continuent à bien prendre leur traitement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de perdu de vue des gens qui, finalement, repartent un peu dans la nature et arrêtent de prendre leur traitement et risque en plus de développer des résistances, on en parlera peut-être par la suite, développer l'estime de soi, le soutien psychologique, l'accompagnement, et ce côté deuxième famille des associations, c'est vraiment fondamental et c'est une vérité générale, aussi bien en France qu'à l'international, pour toutes les associations qu'on soutient.
Pour bien se soigner, il faut se sentir tout simplement bien. En Afrique, vous avez une idée du nombre d'associations que vous appuyez, que vous soutenez ?
Oui, on soutient 32 associations dans 18 pays.
Alors, est-ce que vous avez des méthodes pour bien vérifier que cet argent qui est donné, eh bien, il soit utilisé de bonne façon, justement, pour qu'il y ait un investissement qui porte ses fruits, que ça arrive au bon destinataire ?
Tout à fait. Alors la première chose, c'est que les projets sont déposés dans le cadre d'un appel à projets tous les ans. Et c'est des comités d'experts externes à SIDAction qui vont décider quels sont les projets les plus pertinents. Donc ces comités d'experts, nous en avons un pour l'international, un pour la France et puis un pour la recherche. Donc déjà, ça assure vraiment la qualité des projets qui sont sélectionnés. Et puis derrière, on va faire des audits. Donc tous les deux ans, les associations sont auditées financièrement. Et puis des visites de terrain pour s'assurer aussi de la qualité des activités qui sont menées et de la prise en charge qui est offerte aux personnes.
On va tout de suite donner la parole à un auditeur.
Priorité santé sur RFI.
Et cet auditeur nous appelle du Sénégal, de Dakar. Bonjour Amadi.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute, le professeur Willy Rosenbaum est à l'écoute. Si vous avez des questions, allez-y.
Ok, merci, bonjour. En fait, je suis Amadi, je suis de Dakar.
Mm-hmm.
Depuis presque 6 ans, je vis avec une fille qui est testée séropositive.
Mmh.
Ok, de ce fait, à chaque fois, elle souffrait un peu. Bon, j'ai insisté pour qu'elle me demande sa maladie. Avec le temps, elle a fini par me le confier. Bon, et je lui ai poussé à poursuivre ses traitements, à démarrer ses traitements et tout ça. Ok, bon, maintenant, j'aimerais l'épouser avec 3 ans de traitement et que je compte l'épouser dans quelques mois. Et je me suis dit que pourquoi pas m'approcher de vous et de vous poser la question. Et donc, ma question est que, à l'approche, le jour du mariage, comment je vais me tenir pour consommer mon mariage sans autant se préserver avec 3 ans de traitement qu'elle suit à l'instant.
Alors, ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu de relation sexuelle. C'est bien ça, Amadi. C'est ça.
Non, je n'ai pas eu de relation sexuelle parce qu'elle est très sincère envers moi.
Alors, vous dites 3 ans de traitement. Je vais donner la parole au professeur Willy Rosenbaum. 3 ans de traitement qu'elle suit très régulièrement. Il y a un médecin qui régulièrement vérifie son état de santé. C'est bien cela ?
Ouais, c'est bien cela. En tout cas, elle suit tous ses bilans et tous ses rendez-vous à la lettre.
Vous, votre question, Amadi, c'est est-ce que vous pouvez finalement avoir un rapport sexuel non protégé, avec votre fiancé que vous comptez épouser ? C'est bien cela, c'est la question.
Dès le premier jour de mariage, parce que comme vous le savez, en Afrique, le premier jour de mariage, ça se manifeste le lendemain par. Donc, il faut que j'assure quoi dès le premier jour. Donc, le préservatif peut en quelque sorte me gêner.
Donc,
je ne sais pas de préservatif dans mon conjugal. Et tout ça.
Donc, vous voulez consommer l'union sans vous protéger avec un préservatif.
Sans mon préservation.
Voilà. Donc, professeur Willy Rosenbaum, qu'est-ce que vous pouvez dire à Amadi ?
Amadi, bonjour. Vous avez beaucoup de chance. Parce que si vous êtes fidèle, vous serez parmi les personnes qui n'ont dont la probabilité de contracter le VIH est nulle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la façon la plus sûre de ne pas contracter le VIH, c'est bien d'avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive, et je dis bien séropositive, qui se traite, vous dites depuis 3 ans, mais depuis qui se traite au-delà de 6 mois, on n'a jamais observé de contamination dans des couples qu'on appelle séro-différents, c'est-à-dire où l'un est positif et l'un est contaminé et l'autre ne l'est pas, quand ils ont des relations sexuelles, y compris sans préservatif. Donc c'est aujourd'hui la méthode la plus sûre, même plus sûre qu'un préservatif, pour ne pas contracter la maladie. C'est d'avoir une relation sexuelle avec une personne contaminée par le VIH qui se traite depuis plus de 6 mois.
Parce que sa charge virale est nulle et parce qu'elle ne peut pas contaminer.
Parce que le virus est inhibé. Et ça, on le sait depuis presque 20 ans aujourd'hui. Puisque les premières expériences de contrôle de la transmission de la mère à l'enfant date des années 90. Et on s'est aperçu dans les années 90 qu'une une femme traitée ne transmettait pas ou transmettait moins au début le virus à son enfant. Et aujourd'hui, avec les traitements actuels, il n'y a plus aucune transmission de la mère à l'enfant, d'une mère contaminée à l'enfant, lorsqu'elle est traitée correctement. Donc c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, mais vous voyez qu'ils ne sont toujours pas intégrés.
Qui ne sont pas intégrés, mais j'ai une question quand même, hein, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, ça c'est très important de lire, c'est quand on suit son traitement vraiment de façon très régulière, si par exemple il y a un oubli, parce que c'est forcément des questions que se posent les gens, jour j'oublie, est-ce que ça veut dire que le lendemain il va falloir que je me protège? Comment ça se passe concrètement dans un couple?
Aujourd'hui, 95% des personnes traitées ont un virus inhibé, contrôlé, qui n'est plus actif. 95%. Pour les 5% qui restent, c'est souvent lié au fait d'une très mauvaise observance, ce qu'on appelle. C'est-à-dire des gens qui ne prennent
pas bien
du tout. Mm. Mais quand on oublie une journée, là, ce qu'on appelle la pardonnance, c'est un très mauvais terme, est sans doute très, très bonne avec les traitements actuels. Donc voilà, il faut être le plus fidèle possible au traitement. La fidélité au couple n'est pas obligatoire, mais la fidélité au traitement l'est. Donc voilà. Alors si Amadi est fidèle, les seules contaminations qu'on voit dans les couples sérodifférents, c'est quand le partenaire qui n'est pas contaminé va contracter le virus ailleurs, chez une personne, soit qui ne se traite pas, soit séro-ignorante.
Donc projet de mariage, Amadi, est-ce que vous avez aussi le projet de fonder une famille avec votre future épouse?
Évidemment, c'est ça même son plus grand souhait, raison pour laquelle je me précipite à l'épouser, parce que elle actuellement, bon, tout son désir c'est d'avoir des enfants, et pourquoi pas lui donner ces enfants là. Mais j'aimerais savoir aussi quand elle aura des enfants, si je sais pas, le taux de médicaments qu'elle prend par jour, la toxicité et tout ça, si ça n'aura pas d'effet avec les enfants.
Alors,
que nous pourrons protéger aussi notre enfant sans autant que l'enfant attrape le VIH.
Double problématique, celle de transmission du virus de la mère à l'enfant et d'éventuels effets secondaires que pose Amadi.
En France, alors que toutes les femmes enceintes ont une proposition de test, qu'elles acceptent dans la très grande majorité des cas. Si elles sont positives, elles sont traitées. Il n'y a plus de contamination des enfants nés de mères contaminées qui ne soit survenue depuis des années en France. Donc, il n'y a plus de transmission quand les mères sont traitées. Donc, ça, c'est un premier élément, le risque pour l'enfant. Maintenant, est-ce que les traitements pris par la maman ont des répercussions? On n'a pas le recul de 20 ou 30 ans, hein, mais aujourd'hui, les signaux de risque sont extrêmement faibles. Avec certains médicaments, il y a eu des signaux, on arrête de donner ces médicaments aux femmes enceintes, mais globalement, le bénéfice risque, le rapport bénéfice-risque est très en faveur du traitement. Je crois qu'il ne faut pas craindre que les traitements, aujourd'hui, aient une répercussion significative chez l'enfant.
Voilà ce qui est rassurant, Amadi. En tout cas, on vous souhaite tous nos meilleurs voeux dans vos différents projets.
Bravo.
Et en tout cas, bravo, parce que vous êtes quelqu'un de...
Merci,
avancez dans la vie, vous avez des projets, c'est bien.
Oui, j'ai des projets. D'ailleurs, même je veux en avoir pour elle, hein, surtout qu'elle donne sens à sa vie avec le virus qu'elle porte. J'aimerais bien qu'un jour que tout le monde sache qu'elle est porteuse du virus, qu'elle n'est pas responsable.
Eh bien, continuez à la soutenir et faites tous vos projets comme bon vous semble. On vous souhaite une merveilleuse journée à Dakar, au Sénégal. On voit donc qu'il y a des personnes qui ne pensent pas discrimination, qui ne pensent pas exclusion. Ça fait plaisir à entendre avec tous ces projets parce que, comme on le disait, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Professeur Rosenbaum, aujourd'hui, des gens qui avant entendaient ce diagnostic comme un véritable couperet, même si l'annonce est rude, même si c'est terrible, il y a derrière des perspectives, il y a derrière des projets qui se dessinent.
Oui, absolument. Moi, je vois des gens, et c'est d'ailleurs, pendant très longtemps, c'était prolonger la vie qui était mon objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment que les gens trouvent une harmonie, trouvent un bonheur, y compris dans les relations sexuelles, y compris dans le partenariat et dans leur réalisation à la fois professionnelle et à la fois affective et pourquoi pas sexuelle. Et moi, je travaille beaucoup avec mes patients pour que tout ça devienne de plus en plus harmonieux et j'obtiens, comme ça se passe avec Amadi aujourd'hui, des résultats plutôt satisfaisants, mais c'est beaucoup de travail.
On imagine aussi des patients que vous suivez parfois depuis 10, 20, voire plus.
35 ans.
Est-ce que certains arrivent à un âge aussi avancé? Parce qu'avec la différence, on dépasse souvent la soixantaine à présent sur ces patients-là, ou une bonne cinquantaine. Est-ce que certains de ces malades ont réussi à avancer en âge sans déclarer de maladie opportuniste?
Bien entendu. L'objectif du traitement, c'est justement que les gens ne deviennent pas malades. Et pour aujourd'hui, la très grande majorité des personnes n'ont aucune répercussion physique, clinique de la maladie. Encore une fois, la souffrance est essentiellement psychologique, liée au regard de la société, regard des autres, et du secret qui pèse sur la majorité des gens. C'est cette souffrance-là qu'on a à gérer. Et des difficultés relationnelles, difficultés d'avoir à expliquer à ses partenaires, à son amoureux, à son amoureuse, qu'on est contaminé par un virus, supprimer les préjugés, rassurer sur le risque, c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour la majorité des patients suivis en France et qui bénéficient de soins.
Alors, on va voir aussi que justement pour toutes ces questions, les associations sont absolument indispensables, tout de suite avec une illustration au Togo.
RFI.
Et l'on vous retrouve, docteur Nina Dapam, bonjour.
Bonjour.
De l'association EVT Espoir Vie Togo. Donc, autre illustration pour comprendre l'utilité, la nécessité du site d'action, nécessité de donner, parce que l'argent sert à financer des initiatives de terrain. Alors justement, docteur Nina Dapam, expliquez-nous ce que vous faites concrètement. Quel est le type d'approche, vous, dans votre lutte contre le VIH-Sida?
Merci. Et nous sommes l'association Espoir du Togo, justement au Togo, où la séroprévalence est de 2,5%. Et nous travaillons avec les adultes et les enfants depuis 24 ans. Et l'association est soutenue par SIDAction depuis 22 ans.
Alors, quel type d'activité est-ce que vous proposez? Il y a du médical, il y a du social, il y a quoi exactement?
Il y a des activités sur le plan médical. Nous faisons la prescription des ARV, des médicaments pour lutter contre le VIH. Nous prenons en charge les maladies opportunistes, des maladies qui profitent de l'infection pour s'installer chez la personne vivant avec le VIH. Nous faisons un suivi nutritionnel pour les enfants et les adultes. Et sur le plan psychologique, il y a un soutien à toute personne vivant avec le VIH. Ça peut être en couple, ça peut être des personnes individuelles, ça peut être surtout des enfants. Pour eux, l'activité principal, c'est que lorsqu'ils ont autour de 11 ans, nous finissons par leur dire qu'ils sont porteurs du VIH. Ainsi, ils peuvent organiser leur vie et pouvoir atteindre leurs objectifs du futur.
On a parlé depuis le début de cette émission de stigmatisation. On a parlé aussi, bien sûr, des progrès en termes d'accès aux soins, d'accès notamment aux médicaments, justement, sur la perception de la maladie, également la perception d'une association comme la vôtre au Togo. Comment est-ce que cela se passe, docteur Nina Dapam?
Actuellement, la prise en charge des personnes avec le VIH sur le plan national a connu une accélération parce que les ARD sont devenus tout à fait gratuits depuis quelle année? Depuis 98. Mm-hmm. Excusez-moi, depuis 2008.
Ah, depuis 2008, depuis 11 ans.
Depuis 11 ans. Ce qui fait que les personnes vivant avec le VIH ne portent plus vraiment les stigmates sur leur corps. Puisqu'ils sont traités, ils font moins d'infections opportunistes et c'est tout à fait simple de se fondre dans la population.
Vous dites se fondre dans la population, ça veut dire que aujourd'hui encore, quand on est séropositif au Togo, c'est quelque chose que l'on cache, y compris parfois à sa propre famille.
Justement, il y a des personnes qui continuent pas à cacher leur infection, mais ils savent que dans nos associations, il y a Espoir du Togo, il y en a d'autres également, ils ne sont pas discriminés du tout.
Est-ce que vous avez un message à faire passer, docteur Nina Dapam? Tout à l'heure, on disait rapidement pendant l'émission, on insistait sur la dimension sociale, politique de la maladie. Est-ce que vous auriez, par exemple, un message à faire passer au pouvoir public, justement, pour que votre action soit plus facilement entendue, plus visible, et peut-être pour avoir d'autres moyens?
Oui, il va falloir. Moi, j'interviens beaucoup chez les enfants et les adolescents. Mmh. Pour les adultes, il y a beaucoup d'actions qui se font. Les adultes qui prennent sur eux actuellement de pouvoir pour parler à la population à visage découvert et qui peuvent ainsi montrer à d'autres personnes qu'on peut vivre normalement avec le VIH. Donc, c'est des actions également à promouvoir. Pour les adolescents, je pense qu'il est nécessaire d'organiser des forums des adolescents pour leur permettre de s'exprimer et à ceux qui ne sont pas encore infectés de pouvoir s'informer sur l'infection à VIH, faire leur test de dépistage et également savoir qu'ils doivent eux-mêmes se protéger pour enfin demeurer des personnes indemnes de VIH.
Merci beaucoup, docteur Nina Dapam, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Espoir Vie Togo ONG, qui œuvre donc pour la lutte contre le sida.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
On a parlé tout à l'heure des progrès des soins, de ces médicaments, des traitements. Avec bien sûr la dimension internationale de la maladie, c'est essentiel, Hélène Roger, qu'aucune région du monde ne reste sur le côté du chemin en matière d'accès aux soins. C'est absolument primordial.
Oui, c'est fondamental que cet accès aux soins il soit complètement généralisé, que les systèmes de santé aient les moyens de mettre en place à la fois les mises sous traitement, mais aussi l'accueil des publics. Et c'est fondamental que ça puisse être fait de façon complètement généralisée, tout à fait. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on soutient les associations, parce qu'elles sont complémentaires dans des pays où les systèmes de santé sont parfois trop faibles pour justement assurer cet accueil ou cette mise sous traitement. C'est fondamental d'avoir ces associations qui sont au plus près des populations et qui peuvent les accueillir et qui peuvent permettre cet accès aux soins.
Alors l'accès aux soins qui permet donc de limiter le développement de la maladie, malgré tout chez certaines personnes, elle est bien là, avec notamment d'autres maladies associées. Professeur Willy Rosenbaum, on pense par exemple à la tuberculose, avec toutes les problématiques posées en général par les résistances au traitement, avec des cas de tuberculose particulièrement difficiles, comme d'ailleurs quand on ne prend pas correctement son traitement, la crainte de voir certains médicaments contre le sida perdre en efficacité.
Oui, la tubercule, l'épidémie de tuberculose actuelle accompagne, je dirais, l'infection par le VIH, parce que le virus, lorsqu'il n'est pas traité, affaiblit les défenses et donc favorise la survenue, l'expression de la tuberculose. Et c'est un vrai problème de santé publique. La faiblesse des, je dirais, des structures médicales dans les pays en développement fait que les traitements ne sont pas toujours, de la tuberculose ne sont pas toujours disponibles ou bien administrés, et ça induit effectivement la survenue de résistance. Quand un traitement n'est pas bien pris, le microbe ou le virus en profite, je dirais, pour s'échapper et pour devenir résistant. Donc tout ça, c'est des enjeux importants, et la lutte contre le VIH est un des éléments de la lutte contre la tuberculose. Et, ou contre d'autres infections qui peuvent survenir parce que les défenses diminuent lorsque la personne n'est pas traitée. Donc il y a un enjeu de santé en général, et je crois que c'est très important. Le sida a fait prendre conscience que la santé n'était pas simplement un bien individuel, mais c'est un bien collectif et c'est un bien productif. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé n'apporte pas à la communauté ce qu'il est susceptible d'apporter. Et ça, c'est un élément extrêmement important dont il est important que les pouvoirs publics, les politiques prennent conscience.
Surtout à l'approche d'une échéance très importante, hein, ça va être à l'automne prochain, la reconstitution du Fonds mondial, qui traite donc bien sûr du sida, mais aussi de la tuberculose, du paludisme, c'est très important. Tout à l'heure, on disait maladie politique, il faut de l'argent, il faut de la mobilisation politique. Hélène Roger, ça va être le mot de la fin. C'est un peu ce qu'on dit aussi quand on dit donner pour le SIDAction. Il faut que les pays, les gouvernements continuent d'avancer au gré justement de ces enjeux de santé publique.
Oui, tout à fait, et mettre sur la table, je dirais, les moyens financiers de cette lutte. On sait que les préconisations sont que 15% du budget des États soit consacré à la santé. Aujourd'hui, on en est encore très très loin. Et voilà, il faut évidemment plaider pour que ces 15% soient mis sur la table. Vous parliez de la conférence de reconstitution du Fonds mondial qui va avoir lieu d'ailleurs
à Lyon, en France,
en octobre prochain, qui est aussi un moment très important puisque le Fonds mondial est effectivement un fonds de financement pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et il faut que les États contributeurs mettent les moyens sur cette conférence de reconstitution. La France, l'Allemagne, le Canada, voilà, doivent vraiment mettre les moyens nécessaires pour atteindre, on estime qu'il faudrait entre 17 et 18 milliards de dollars pour permettre au Fonds mondial de mener les programmes à la hauteur nécessaire vis-à-vis des enjeux. Et aujourd'hui, on sait qu'on sera en dessous et on n'atteindra même pas forcément les 14 milliards qui sont aujourd'hui l'objectif du Fonds mondial.
Et on en reparlera bien sûr sur cette antenne. Merci à tous les deux, hein, Hélène Roger, professeur Willy Rosenbaum. On rappelle les numéros, le 110 pour donner par téléphone de France à l'étranger, www.sidaction.org. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Assez tout ça maqué, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Lundi, vous retrouverez Chantal Laureau derrière le micro. Émission qui aura pour thématique la grossesse après 40 ans. Vos messages sur notre page Facebook et à notre numéro 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.